Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes ? Tu bouffes ?
Les crêpes, c'est à la mode. Deux personnes peuvent te dire ça, avoir toutes les deux raisons, et pourtant penser pas du tout, du tout, du tout à la même chose. D'un côté, il y a les crêpes street food, alors crêpes entre guillemets, diront les puristes, qui sont de nouvelles enseignes qui ouvrent un peu partout et qui font passer les tacos à la française, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans un épisode de Bouffon, pour des bons gros ringards. Salim, journaliste chez Munchies, qui est allé passer une soirée chez Brothers à Courbevoie. Brothers, c'est une des plus connues des nouvelles crêperies, est venu nous parler de ça en deuxième partie d'épisode. Mais les crêpes bretonnes aussi sont à la mode, les crêpes de puristes, on va dire, avec de nouvelles enseignes qui ouvrent, loin de la crêperie old school avec une déco à mi-chemin entre un chalet suisse et un truc inconnu, dans une lumière un peu sombre et douteuse. Non, maintenant, ce sont de beaux endroits, jolis, modernes, et quand je dis ça, je pense tout particulièrement à Breton, ma crêperie préférée à Paris, qui fait des crêpes avec de très bons produits, des crêpes qui sont douces, savoureuses, mais aussi croustillantes. Mais Jérémy Horry, le fondateur de Breton, en parlera beaucoup mieux que moi. Alors moi, je définis le restaurant Breton comme une des meilleures crêperies de Paris, mais j'imagine que toi, tu le définis autrement, parce que c'est un peu compliqué de ta part de dire « je fais dans la meilleure crêperie de Paris ». Tu dis quoi sur Breton quand tu t'en parles aux gens ?
Bah en fait, j'ai démarré sans savoir ce que sans savoir vraiment ce que ça allait produire. J'avais envie en fait de me démarquer parce que comme je viens de Saint-Malo, c'est une ville où il y a beaucoup de crêperies qui font surtout de la crêpe pour touristes. Donc, je voulais me démarquer et revenir un peu, on va dire à l'histoire du produit, c'est-à-dire une crêpe fine. Avec du goût et quelque chose de très croustillant et moelleux à la fois. Quoi.
Et alors, tu parles de l'histoire du produit. Toi, t'as grandi à Saint-Malo, t'as baigné quelque part dans les crêpes. Même si tu dis que tous les restos sont des restos de crêpes pour touristes, tu trouves comment, c'est quoi ta rencontre avec la crêpe ?
Historiquement, à Saint-Malo, il y avait deux crêperies. Donc, il y en a une qui a été créée en 1956, si je ne me trompe pas, et la deuxième en 59. Donc, avant, personne ne mangeait des crêpes dans un restaurant.
Non, ah oui.
On mangeait ça chez soi. Et moi, j'ai des souvenirs, justement, pour revenir à ça, en fait, d'une crêperie qui s'appelait Chez Gabi. Qui était tout petit, vraiment comme... c'était pas plus grand qu'un placard, hein, j'exagère, mais... Et c'était une vieille grand-mère, en fait, qui faisait ses crêpes seule, et avec sa fille qui servait. Et vraiment, j'ai des souvenirs, enfin, je sais pas, c'est toujours après une représentation un peu fausse, hein, mais c'était très, très bon. Elle faisait ça avec une main de fer, en plus, et puis elle était très, très... Enfin, beaucoup d'adresse. Donc, elle tenait son boucleur, comme on dit, vraiment très, très bien. Quoi. Et au niveau des émotions gustatives, c'est impressionnant. Enfin, je sais pas, peut-être que je me souviens mal ou
non, mais ça
je veux trop me souvenir, mais il y avait vraiment des saveurs quoi, qui ont un peu cristallisé tout ça dans ma tête.
Il y a quoi, par exemple, que t'as dans la tête, là ?
Le beurre, ça apportait sur la galette, je sais pas, quelque chose de... comme si ça se fixait sur la pâte et ça explosait en... dans la bouche.
Parce qu'elle faisait presque des crêpes juste avec du beurre.
Elle faisait des crêpes, c'était simple, hein, elle avait c'était œuf, jambon, fromage, un peu de champignons, puis elle faisait une petite spécialité à base de crème et de champignons, enfin une sorte de persillade. Mais tout était excellent, quoi. Ouais.
Et ça fait partie de tes premiers souvenirs de crêpes ?
En fait, avec mes parents, on y allait, je pense, une fois par semaine. Donc c'est sûr que ça permet vraiment de se souvenir, en fait.
Est-ce que chez les Bretons, il y a un truc qui veut que les meilleures crêpes, c'est les crêpes de ses parents ?
C'est vrai qu'il y a toujours une grand-mère qui fait des meilleures crêpes que nulle part ailleurs, mais je pense que c'est faux aussi parce que il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de crêperies parce que j'ai fait, avant d'ouvrir Breton, en fait, j'ai fait un tour en Bretagne et j'en ai testé, je sais pas, peut-être plus de 100 et j'ai goûté aussi de mauvaises crêpes, quoi. Donc, il y a pas qu'en Bretagne qu'on mange de bonnes crêpes.
Parce que donc avant d'ouvrir Breton, t'as fait une formation de cuisine ou pas spécialement?
Sans raconter trop mon histoire, j'avais mon grand-père qui était pâtissier, qui était un très bon pâtissier. Et puis j'ai aussi une mère qui est dans la restauration, donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Je pense que c'est lui qui m'a appris les premiers gestes, mon grand-père, parce qu'on avait en plus un jardin, donc c'est vrai que toutes ces choses-là, ça permet aussi de s'éveiller. Et puis ma mère était donc restauratrice et également une très très bonne cuisinière. Donc voilà, ça c'était mon enfance, donc avec elle j'ai appris beaucoup de choses. Et puis elle avait vraiment une finesse. assez naturel dans la façon de faire la cuisine.
Tu te souviens d'un plat qu'elle te faisait
Ouais, bah j'adore. Enfin, un truc qu'elle me fait. Après, en pâtisserie, je suis fan de pâtisserie aussi. Elle faisait une tourte au Mirabel. Voilà, un souvenir assez fantastique.
Et du coup, tu veux tout de suite lancer ton restaurant ou d'abord tu veux faire autre chose?
Non, j'ai fait autre chose. Je suis venu à Paris, je travaillais dans les tissus. Puis j'avais fait aussi un cursus dans les ressources humaines, donc voilà, à Rennes. Voilà.
Okay.
Donc je me suis un peu cherché.
Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que tu te dises non, en fait, je veux faire des crêpes?
Parce qu'en fait, ça me permettait aussi d'être libre. C'est-à-dire, je pouvais créer quelque chose à ma façon, avec une identité que j'avais pensée. Et puis, ça me plaisait aussi de travailler ce produit, parce que j'en avais pas marre, mais c'est vrai que j'avais oublié de... Je savais plus où aller manger de bonnes galettes, quoi. Après, il y a certes de bonnes crêperies encore, mais après, j'avais envie aussi de faire ma façon, ma manière, quoi.
C'est ça, tu t'es dit, mince, à Paris, il n'y a pas ce que je veux, donc je vais
le
faire.
C'est ça, ouais. Mais en fait, je trouve qu'à Paris, il y a une bonne crêperie, pour pas la citer, qui s'appelle Brest Café, qui est assez bonne. Mais sinon, avant, il y avait le quartier de Montparnasse. Historiquement, je pense que c'était bon, parce que c'était de Bretons. Donc, quand ils sont arrivés... il y avait, je pense, beaucoup d'implications. Mais après, bon, bref, comme tout commerce, ça a été revendu. Puis c'est devenu un quartier emblématique. Donc forcément, ça perd un peu aussi de sa qualité. Et donc, ouais, c'est vrai que je me suis dit, il y avait une possibilité de se faire une bonne crêperie à Paris, quoi.
Et donc, il se passe combien de temps? Parce que Breton, ça fait 2 ans que ça existe.
Ça fait 2 ans et ça m'a pris, je dirais, ouais, 7-8 mois pour élaborer le...
Donc, ça a été 7-8 mois. Combien de temps le tour de Bretagne pour goûter les crêperies?
Non, ça m'a pris 3 semaines, ouais.
Enfin, 3 semaines.
Ouais. Non, mais en allant chez des copains, en buvant...
T'en avais pas marre au bout d'un moment de manger des crêpes?
Bah, finalement, non. Enfin, c'est vrai que la galette, c'est surprenant, mais je m'en lasse pas trop.
Ok.
Ouais, comme c'est une base assez diététique, finalement... C'est du beurre, donc ça peut être apparenté comme un morceau de pain, finalement.
C'est un peu comme les pizzas, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais, mais en plus léger aussi, parce que la pizza, c'est plus bourratif. Et du coup, ça m'a permis aussi d'aller voir des producteurs. Enfin bref, parce que le cidre aussi, j'aime bien le cidre.
Ouais.
C'est une boisson, finalement, assez désaltérante et plus facile d'accès que le vin.
Oui.
Donc ça m'a permis aussi de faire un tour des producteurs que j'avais en tête, ouais.
Et donc, quand tu sors de ce tour-là, tu as été marqué par les trucs en particulier? Il y a des endroits ou des façons de faire où tu te disais, waouh, là j'avais.
Bah ouais, en fait, c'est un peu comme en Italie, je trouve. Et c'est dommage qu'en France soit un peu négligé. C'est qu'il y a autant de façons de faire que de galettes.
Ouais.
En Italie, je sais pas, je crois qu'il y a plus de 500 000 variétés de pâtes. Je pense qu'en Bretagne, c'est pareil. Après, il y a une vraie séparation en Bretagne. Il y a le Pays Gallo et puis il y a le Finistère. Donc, d'ailleurs, dans le Finistère, on appelle ça que des crêpes. En Bretagne, on appelle ça des galettes.
Toi, tu dis dans le Finistère et en Bretagne, tu fais la
séparation. Dans le Pays Gallo, pardon. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, là-bas, ils ont une façon de faire très particulière. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est très surprenant. C'est plus marqué, je trouve, que le Pays Gallo. Enfin, l'Ille-et-Vilaine, Rennes.
Et tu penses qu'il y a vraiment... Ça existe ou pas un tour des crêperies, enfin un truc où tu te dirais, comme tu dois pouvoir le faire en Italie, dire tiens, je vais me faire toutes les pizzas de la
Non,
de
c'est vrai que ça n'existe pas, ouais, mais ça pourrait être intéressant. Ouais.
Et du coup, une fois que tu reviens de ce tour-là, tu as agrégé plein d'informations, plein de trucs, et c'est là que tu crées Breton.
C'est ça, ouais.
Et quelle est ton envie à ce moment-là quand tu crées Breton?
Après, je sais qu'il y a beaucoup de Bretons à Paris, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de raviver, en fait, pareil, un souvenir. Moi, je pensais que j'étais pas le seul non plus à sentir ça, donc je me suis dit bon, je vais me lancer, je vais créer un petit endroit, parce que en fait historiquement la crêperie ça a toujours été assez petit,
hein. Voilà, c'était un choix d'avoir un endroit qui soit pas trop grand,
pas trop grand, ouais, puis je voulais que ce soit chaleureux quand même, qu'on puisse venir, mais qu'on se sente aussi un peu protégé, bien dans un espace, en fait, parce qu'il n'y a pas que la galette, hein, et l'assiette, mais si le lieu est bien et chaleureux, ça participe aussi à la dégustation, quoi.
Et du coup, tu crées Breton, donc tu cherches un petit endroit et...
Je cherche un petit endroit, je voulais quand même être dans le 10e, 11e, un peu dans le cœur de Paris, mais un peu excentré.
Oui.
Après, le 11e, c'est vrai que c'est un quartier qui est assez dédié finalement à la gastronomie,
ouais,
à la bouffe, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, comment tu composes ton menu et comment tu fais tes crêpes, enfin, comment tu choisis? Tu dis, tu veux en faire, comme tu disais tout à l'heure, des fines qui soient croustillantes?
Ouais, j'essaye d'apporter de la finesse et en même temps du moelleux. Donc, si on est puriste, c'est que de l'eau, de la farine et du sel, et puis la fermentation. donc plus ou moins longue. Et ensuite, après, j'ai apporté un vrai choix au niveau des produits, des producteurs. Donc, je travaille avec des Bretons, avec des Normands. Ça déplaît parfois.
Ah ouais, il y a des gens qui sont touchés parce que tu bosses avec des Normands.
Il y a encore, je sais pas, sur les Bretons, ils sont assez... assez chaud. Hein. Donc, mais moi, je trouve qu'il y a de bons producteurs en Normandie. Pour le cidre, d'ailleurs, que je trouve plus facile à boire souvent que le Breton, qui est plus marqué, plus typé. Et puis, après, mes producteurs, le beurre, ça vient de Bretagne et de Normandie. Je bosse avec deux producteurs. Et la charcuterie, tout ça, je bosse avec un producteur de Normandie aussi. L'andouille également. Ma farine vient, bien évidemment, par contre, de Bretagne. D'ailleurs, je le cite, hein, il s'appelle Jean-Pierre Lerousse, celui qui produit donc cette farine magnifique. Hein, donc il a restauré un vieux moulin.
Ok.
Voilà, c'est donc à côté de Rennes. Il s'est battu, puis il a été obligé de contourner un peu la loi, parce qu'en France, il y a un cahier des charges quand la semence n'est pas dans l'ensemble des semences répertoriées. On est obligé de contourner la loi et puis de créer une association pour pouvoir la commercialiser. Voilà, donc lui, je lui tire mon chapeau parce qu'il est tout seul avec sa femme et il s'occupe de toute la production. Voilà.
Et du coup, c'était important pour toi parce que tu te dis les crêpes, c'est un produit qui est fait de peu de choses, donc autant que tous les produits soient vraiment de très grande qualité.
C'est ça, oui, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose, hein, c'est comme tout. Enfin, en Bretagne, ils sont. Finalement, on est vraiment très très porté vers le produit. Donc si la fraîcheur et les produits sont très bons, il n'y a pas besoin de grand chose pour les sublimer en fait. Ouais.
Il y a combien de crêpes à ton menu ?
Je dirais en fait il y a une dizaine de crêpes, ouais. Et en crêpes c'est pareil quoi. Ouais. J'essaie de pas en avoir trop, puis après j'apporte des suggestions en fonction de l'humeur quoi.
C'est dur de faire évoluer un petit peu le ce qu'il y a dans les crêpes, justement. Tu disais que les Bretons sont souvent, mais ils sont un peu conservateurs aussi.
Les Bretons, c'est sûr qu'ils vont pas sortir de la complète ou de la fromage. Par contre, ouais, non, à Paris, je trouve les trucs plus ouverts. Ouais. C'est vrai que comme la galette, c'est un support, c'est facile de l'associer avec d'autres produits. Quoi. Les légumes, ça se marie très bien, même les poissons fumés. Non, on peut faire plein de choses, en fait.
Oui, on trouve un peu, comme tout à l'heure, le principe de la pizza. Quoi. C'est ça, t'as une base qui est la galette et tu rajoutes après ce que tu veux.
Exactement. C'est dans tous les pays, en fait, dans tous les coins du monde. Hein. Il y a une base, en général, de céréales. Et puis, si on a un truc sous la main... On le met, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passait en Bretagne, parce que c'était une région très pauvre, historiquement. Et la galette, c'était finalement le repas le plus régulier. Et puis, si on avait un œuf, un bout de lard, on le mettait, et puis on mangeait ça.
Et quand tu crées le Breton, t'as toute la communauté bretonne de Paris qui te regarde, en tout cas tous tes potes, t'as un peu la pression.
Ouais, c'est vrai qu'en l'appelant comme ça, je me suis dit, peut-être que tout le monde va me tomber dessus. Mais je trouvais pas de nom plus rassembleur, en fait. Après, on tombe souvent dans des jeux de mots un peu scabreux. Donc, je me suis dit, autant l'appeler Breton, c'est plus immédiat, plus absolu.
Ouais, et puis ça dit ce que c'est.
Voilà,
quoi,
Ouais, mais c'est vrai que finalement, j'ai beaucoup de Bretons qui viennent avec un a priori. Ils me disent, attention, je suis Breton. Donc...
Et du coup, t'as envie d'en ouvrir un autre? T'as envie de...
J'aimerais bien. Après, je trouve que sur le emporter, il y a quelque chose à faire, en fait. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les modes de vie ont changé. Le midi, on a moins de temps. Et je trouve que la galette, c'est un produit qui peut vraiment se faire emporter. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on procède, mais je trouve rouler ou après d'une façon peut-être plus travaillée, mais c'est facile à déguster, c'est bon, c'est diététique, c'est pas trop calorique. Donc je pense que ça pourrait bien fonctionner pour le déjeuner. Ouais.
C'est marrant, ça fait une transition parfaite vers ce dont je voulais parler juste après, qui est, tu vois, cette mode des crêpes, pas du tout bretonnes, mais des espèces de crêpes kebab, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Toi, t'en penses quoi? Tu vois ça comment?
Après, c'est un truc un peu fourre-tout, quoi. Je veux dire, si c'est bien fait, ça peut être bon. Après, si c'est pour faire un truc un peu veggie dans l'air du temps.
J'ai pas l'impression que ce soit très veggie. Hein. Je pense que c'est plutôt plein de viande de fromage.
Je sais pas. Après, après, il y a la crêperie kebab, il y a la crêpe emportée. Puis là, aujourd'hui, il y a aussi une tendance de la crêpe un peu veggie. Enfin, moi, que j'observe.
Okay.
Dans le deuxième arrondissement, il y a 2-3 établissements comme ça. Moi, je trouve ça pas mal si c'est bon, en fait. Mais après, si c'est juste un truc pour se caler.
Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a des choses meilleures, quoi.
C'est vrai que enfin moi ce que j'aime bien chez Breton, c'est que les quantités sont justes, mais tu sais que les produits sont bons et c'est accessible en fait, c'est pas trop cher. Et c'est vrai que quand t'as des trucs qui sont certes moins chers, ils te mettent 15 viandes dedans, mais en fait tu sais que...
Bah, c'est une question d'heure quoi, après s'il est 2h du mat...
je crois que c'est un peu ça aussi, hein, ces endroits-là font le plein quand même plutôt en sortie de boîte ou juste avant d'aller pour se caler... Ok, bah très bien, bah merci beaucoup Jérémy.
Merci à toi.
Donc Breton, c'est les horaires d'ouverture
Donc Breton, c'est ouvert du mardi au samedi, donc midi et soir. Et,
c'est à Paris dans le 11e arrondissement.
Paris 11e arrondissement, au 56 avenue de la République.
Merci beaucoup.
Merci.
Et maintenant, autour des nouvelles crêpes. Alors moi, j'avoue ne jamais en avoir mangé. C'est pas faute d'avoir parfois été tenté, mais j'ai jamais encore passé le cap. C'est pourquoi j'ai invité Salim Jawad, journaliste pour Munchies, qui est allé à Courbevoie, chez Brothers, pour écrire un article sur le paradis de la crêpe géante. Et je voulais savoir, bah alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui va y manger? Et est-ce que c'est bon? Ça va, Salim?
Ça va très bien.
Tu travailles pour Munchies?
En effet.
Pour le kit, t'écris des chroniques de street food, c'est ça?
C'est ça.
Qui t'ont amené à tester quel type de truc?
On a commencé par Brothers Crêperie, donc de la crêpe. Après, on s'est diversifié pour parler de la street food plus largement, donc tous les kebabs grecs qu'on appelle grecs, mais qui font plus de grecs, c'est plus des sandwicheries.
Ouais.
Faire le parallèle avec tout ça, et tous ces endroits où on peut bien manger au niveau du goût, pas forcément au niveau de l'apport calorique, etc. parce que bon, on en ressort toujours très blindé pour pas très cher.
Ce qui est un peu un truc qui se développe de plus en plus, et notamment avec Brothers, donc les crêpes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe chez Brothers?
Alors Brothers, en fait, c'est simple. C'était une boutique à Courbevoie qui a été montée par plusieurs frères. Et il n'y a pas de salle, on ne s'assoit pas. On passe, on commande. On a notre petit rond, comme au tacos, par exemple, où on attend que ça sonne pour aller chercher la commande. Et c'est le même principe qu'au Subway, c'est-à-dire qu'on choisit la base de la crêpe, donc soit une crêpe au sarrasin, soit une crêpe au froment, etc.
Ah oui, il faut quand même cette distinction de spécialiste, ok.
Et comme on choisit son pain au Subway, là on choisit sa pâte, et après c'est parti, roulez jeunesse, mettez les ingrédients que vous voulez, donc jusqu'à 150 grammes de 4 viandes différentes, cheese...
Il n'y a aucune limite?
Il n'y a pas de limite. Après, le prix augmente, bien sûr, au niveau des toppings, mais sinon, c'est tant que ça rentre, on y va, quoi.
Est-ce que tu y es retourné depuis l'article?
J'y suis retourné, en effet, une fois. Et moi, j'ai ma petite préférée, la new-yorkaise, là-bas, avec viande hachée, cheddar, etc. Mais les sucrés sont pas mal non plus. Mais après, le sucré, moi, je trouve ça un peu plus écœurant quand il y en a beaucoup, quoi.
Donc, la new-yorkaise, c'est un truc qu'ils proposent, eux, déjà, tout fait.
C'est ça.
Mais après ça, tu peux complètement t'affranchir de leur truc et faire toi-même ta crêpe.
Exactement. On peut prendre la base d'une New Yorkaise, par exemple, rajouter des choses, ou alors partir sur quelque chose qui n'existe pas et faire sa crêpe de A à Z.
Merwan nous disait sur l'épisode des tacos qu'on a fait que la crêpe, c'était le nouveau tacos.
C'est pas faux d'un côté, parce que justement, avant, on avait beaucoup de crêpes... Enfin, il y avait la connotation crêpe sucrée.
Ouais.
Et là, c'est en train de se développer, la crêpe salée, il y en a de plus en plus. Et les boutiques comme Brothers, après, il y en a beaucoup d'autres qui commencent à fleurir un peu partout. Et c'est vrai que ça peut être l'avenir du tacos. Après, le tacos, c'est né il y a 2 ans de ça.
Ouais.
Et là, la mode est terminée, on a l'impression. La crêpe, on va voir...
Ça va remplacer. Parce qu'en fait, moi, je me souviens qu'avant que j'habite à Paris, j'étais à Cherbourg dans une école, j'avais des potes parisiens, banlieusards, et qui me disaient, putain, ça manque de me faire des crêpes à Pigalle et tout. Et je comprenais pas de quoi ils parlaient, tu vois, parce que je me disais, mais... Enfin, tu vois, pour moi, la crêpe, c'était chez mes parents, ma mère faisait des crêpes, ou quand j'allais en Bretagne chez mes cousins, les crêpes de sarrasin, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Je me disais, mais à Pigalle, des crêpes et tout, c'est pas possible. Et après, quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait ce truc de les petites boutiques, là, les mecs qui font juste des crêpes au truc, qui étaient déjà un peu abusés, mais qui restaient corrects par rapport à ce que, avant l'arrivée de Brothers et ce genre de choses. Et maintenant, ouais, on est passé au truc où la crêpe est devenue un plat qui s'immisce entre le grec et le tacos.
Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis de province et on n'avait pas cette culture de la crêpe où on peut sortir à 2-3 heures du matin, manger une crêpe entre collègues, en rentrant de soirée ou autre. C'était comme tu disais, dans la chandeleur, avec la famille, etc. Donc il y avait ce côté entre guillemets culturel, mais pas ce côté comme on sort de boîte, on va au McDo. Là maintenant, on sort de boîte, on va manger une crêpe.
Donc tu as fait un article sur Brothers justement, où tu es allé passer une soirée chez Brothers. Qui sont les gens qui vont là-bas?
J'étais assez surpris justement, parce que la queue était immense. Donc il y avait des groupes de filles toutes pomponnées qui s'apprêtaient à sortir.
Ok.
À côté de ça, il y avait, j'ai rencontré 2 Allemands qui connaissaient rien du tout à Brothers, qui étaient juste de passage à Courbevoie et qui ont vu la queue. Ils se sont dit, ça doit être quelque chose, donc on va s'arrêter. Après, il y avait des mecs qui venaient des Yvelines, Donc ils venaient ça se déplace vraiment quoi. Il y en a qui venaient du sud de Paris, il y a des personnes plus âgées de 40-50 ans qui sortaient du travail tard, Courbevoie, La Défense, c'est pas super loin, donc ils passaient chercher leurs crêpes, etc. Donc c'est vraiment diversifié. Ouais.
Ok, c'est ouf. Et est-ce que t'as eu des Bretons qui ont réagi à ton article et qui t'ont insulté?
Alors, j'ai pas justement regardé les commentaires, mais il doit y en avoir quelques-uns, parce que c'est vrai que les Bretons, ils sont très fiers des crêpes, quoi. Ça leur appartient limite, mais je le prendrais bien, quoi qu'il arrive.
Et parmi les gens avec qui t'as pu discuter, est-ce que t'as remarqué que chacun avait son truc, son mélange, sa combinaison de crêpes?
Alors justement, il y en a qui sont venus pour découvrir, donc ils essayaient de mettre un peu tout, comme on disait tout à l'heure, mettre le maximum de choses sans forcément que ça ait de goût à la fin et que ça rime à quoi que ce soit. Et il y en avait d'autres, ceux qui venaient des Yvelines notamment, ils étaient envoyés par leur copine pour choisir telle crêpe parce qu'elle avait l'habitude de manger telle crêpe. Donc il y a aussi ce côté fidèle des gens qui vont manger une crêpe.
Ouais, c'est comme au grec en fait, t'as ta combinaison, comme au taco, j'imagine, au tacos aussi. Et tu penses que, parce que c'est vrai qu'on en parlait vite fait tout à l'heure, mais en fait, il y a un vrai truc de qui peut-être un peu inspiré aussi des États-Unis, où en fait, de vraiment l'abondance de nourriture, et plus tu peux en mettre, plus ça va rendre, enfin, ça va donner de la valeur à une enseigne. Comme tu dis, Subway, mais à la limite, Subway, c'était encore... Subway, ça reste genre, est-ce que tu vas mettre des tomates ou de la salade ou des olives, tu vois, ça reste des trucs assez... Après, il y a eu de plus en plus de trucs. Au taco, ça a été ceux qui ont vraiment eu le plus récemment la plus grosse fame pour ça, avec le giga tacos, où il y avait, je sais plus, 7 viandes, du fromage dans tous les sens. Et maintenant, tu disais quoi, enfin, la valeur de ce truc-là, c'est qu'en fait, tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Et ouais, les gens avec qui tu parlais, ils disaient ça, qu'ils étaient contents parce que tu peux mettre 18 trucs dedans.
Ouais, c'est ça. Après, on va pas se mentir, hein. C'est relié à une culture quartier, donc du beaucoup manger pour pas cher. Donc les gens vont essayer de, qui ont pas forcément beaucoup de revenus, où il y a beaucoup de jeunes aussi, de lycéens, etc. Moi, je me rappelle que quand on payait un grec à deux, c'était la guerre pour savoir qui allait manger. T'as mangé plus de frites que moi, etc. Là, c'est pareil. S'il y a de collègues qui sortent du collège ou du lycée pour chercher une crêpe, ils vont mettre le maximum de choses en se disant, ouais, comme ça, on en aura plus chacun de nous deux, quoi. Donc il y a cette culture, ouais, du beaucoup, en fait, pour pas cher. C'est vrai, comme tu disais, c'est à l'américaine, dans la démesure, même si, au fin de compte, à la fin, ça rime à rien parce que t'as aucune saveur qui se dégage vraiment de la chose, quoi.
Ouais, c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a vraiment deux écoles de ceux qui ont compris qu'en fait, il fallait pas non plus tirer sur la corde et ceux qui blindent le truc.
Exactement.
Et qui mélangent tout. Et toi, t'es déjà allé chez Otacos?
Otacos, oui.
T'as déjà mangé le gigatacos, non?
Le gigatacos, j'ai un collègue qui l'avait fait, justement, parce qu'on faisait un concept vidéo là-dessus. Pas réussi à le finir parce que ça fait la taille d'un plateau. Et après, au tacos, je respecte la chose, okay, le concept, mais j'ai mangé d'autres tacos dans d'autres enseignes qui étaient bien meilleures.
Et tu penses quoi du fait que, c'est marrant parce qu'il y a exactement la même problématique avec les tacos, de ça n'a rien à voir avec les originaux, d'accord, et les crêpes, ça a un peu plus à voir quand même, mais je pense que ouais, tu te places de quel côté, tu dis... Enfin, dans ce genre de débat, quel est ton avis?
Après, justement, je trouve que ça reste une forme d'ouverture, hein. C'est comme... ceux qui vont mixer du hip-hop avec de l'électro, il y a beaucoup de gens qui vont dire « ouais, mais c'est pas ça à la base, mais on s'ouvre à quelque chose d'autre, donc c'est pour un mieux, en fin de compte. »
Ouais, toi tu penses que c'est juste, on a créé un nouveau plat, certes il a le même nom qu'un ancien, mais qu'en fait c'est deux choses différentes.
Exactement.
Qui ont le mérite d'exister. Tu préfères lequel des deux? Je peux dire les deux. Hein.
Les deux alors, dirons-nous.
Et donc pour Munchies, t'écris des trucs, justement tu vas à la découverte des trucs de street food. Donc t'as fait quoi d'autre que les tacos, les crêpes?
Alors on a fait le Mac Omar à Barbès, qui en fait le concept qui nous a intéressé, c'était le petit snack de quartier qui fait la nique au géant McDo, parce qu'il a repris le même logo, etc. Et lui c'est plus un snack qui propose des produits algériens, etc. pour vraiment pas cher, parce que c'est dans Barbès, donc ça reste assez populaire. Et c'est le côté aussi, on y va à 22h, il y a une queue de malade, le midi il y a des gens qui passent de partout. Et là, plus récemment, on a essayé de faire le 129. Ça s'est pas fait parce que leur notoriété était déjà faite et ils disaient qu'on n'avait pas besoin de vous. Donc,
Il me semble que Merwan a parlé du 129. C'est un truc qui est le grec le plus coté.
Alors, c'est ça. En effet, c'est le grec de Saint-Denis qui fait parler de lui partout. Il y a des gens qui viennent de Gien. Donc, okay, c'est vraiment loin. Ça a 2 heures de route pour manger au 129. Et... c'est pareil, c'est le concept des sandwichs à 6-7 steaks, cordon bleu, œufs, etc. Avec bien sûr les frites et la boisson. Et c'est stratégique, hein, pour manger ce genre de choses, parce que faut choisir, soit tu manges les frites avant et après tu vas pas manger tout ton sandwich, etc. Et on a fait aussi le Macalal à Bobigny, qui lui est une vraie institution dans le sens où il a fait que de progresser, de changer de décoration, etc. Et à l'inverse du 129 qui propose des choses plus classiques, le Macallal, il va se développer et proposer des sandwichs tartiflettes, des Mac tunisiens, etc. Donc, varier la carte et proposer...
Il s'appelle le Macallal.
Macallal, justement. Donc, il y a une connotation aussi très musulman, très quartier, on se dit ça, Bobigny, etc. C'est...
En fait, on les qualifierait de fast-food, mais en fait, il y a quand même un vrai truc social, quoi. C'est pas juste des fast-food, là où un Quick ou un McDo, c'est hyper froid et distant. Tu dis, il y a de la queue, il y a des gens qui viennent avant d'aller en soirée, ils se posent, ils font un truc. Enfin, tu le sens dans tous les trucs que tu as testés.
Ouais, justement, après, par rapport à toutes ces grandes enseignes, c'est vrai qu'il y a le côté usinier du McDo, on commande, s'il vous plaît, prochaine personne, etc. Ça balance des numéros à tout va. Là, justement, c'est plus convivial, on va dire, dans le sens où même j'en parlais avec le boss du Macallal dernièrement. Il me disait, les gens ne vont plus forcément au café pour se rencontrer. Ils préfèrent venir au grec parce qu'ils se disent qu'ils vont croiser un de leurs collègues. Et ils faisaient le parallèle avec les petits reportages qu'on peut voir sur TF1 où la grand-mère elle va aller à la boulangerie, pas pour chercher son pain, mais parce qu'elle se dit qu'elle va peut-être voir sa voisine, etc. Donc il y a un lien social qui se crée par rapport à tout ça, quoi.
Est-ce que tu as la même consommation dans ta vie perso que dans ta vie pro, on va dire ?
Ah, moi, je suis très kebab, okay. Truc très gras, donc pas très bon pour la santé, mais où justement, on mange beaucoup pour pas trop cher. Et mon resto préféré, ce sera...
C'est un kebab ?
C'est un kebab à Tours qui s'appelle Chez Sam, qui fait pour moi les meilleures frites du monde et une viande incroyable.
Donc, ah, super, parce qu'on était on était vraiment en demande d'adresse en province, parce qu'on est souvent de Paris, et donc Tours. Et comment tu me redis le nom ?
Chez Sam, à la place du Monstre, à côté de la place Plumereau, il y a plein de grèbes qui se côtoient, qui jouent des coudes les uns avec les autres.
Mais c'est Chez Sam le meilleur.
C'est Chez Sam le meilleur, il n'y a pas photo.
Merci beaucoup Salim.
Je t'en prie, merci à toi.
Merci Salim, que vous pouvez retrouver sur Munchies. On mettra le lien de l'article sur le site de Nouvelles Écoutes. Et merci Jérémy, que vous pouvez retrouver chez Breton. Toutes les adresses et informations évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes.fr/bouffon au pluriel. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée par Maxime Olivier au studio L'Arrière-Boutique. Production et coordination, Laura Cuissard. Vous pouvez retrouver Bouffon sur Twitter, BouffonNE, et sous le même nom sur Instagram et Facebook, on y partagera les photos des lieux et plats évoqués. Parlez de Bouffon autour de vous, et pourquoi pas mettez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. À la semaine prochaine !